Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. Pourquoi le nucléaire et quelle politique pour le nucléaire civil? Pour répondre à ces questions, nous sommes en compagnie de Philippe Jorgensen et Marcel Boiteux. Philippe Jorgensen, vous êtes professeur d'économie à Sciences Po et président de la commission de contrôle des assurances des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CAM, et vous faites régulièrement des chroniques sur cette antenne. Et Marcel Boiteux, merci d'être avec nous. Vous êtes normalien, vous avez dirigé pendant de nombreuses années Électricité de France, plus connue sous le nom EDF, et vous avez été l'un des artisans de la politique nucléaire en France. Vous avez également été membre du comité de l'énergie atomique de 1967 à 1987 et vous avez présidé le Conseil mondial de l'énergie, entre autres fonctions. Vous avez notamment également présidé l'Institut Pasteur. Donc le nucléaire, pourquoi pas ?
C'est une bonne question qui redevient actuelle aujourd'hui, après avoir été presque tabou, parce que on n'a plus construit de centrales pratiquement dans le monde depuis 25 ans, et on ne parlait presque plus du sujet. Alors pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui? Les raisons sont évidentes. Le nouveau choc pétrolier d'abord, le prix du pétrole et du gaz forcément qu'il suit ont été multipliés par 3 brusquement.
Depuis
c'est un
de
choc, ils ont été multipliés par 3 en un an et demi en gros, au cours de la dernière année et demie. C'est un choc plus faible que les deux chocs pétroliers précédents, parce qu'on en est quand même au troisième, celui de 1973 et celui de 1980, un peu plus faible en dimension, mais enfin quand même très important. Si par exemple notre commerce extérieur est de nouveau en déficit profond, c'est évidemment à cause de la facture pétrolière. Et ça entraîne un autre élément, c'est qu'à partir du moment où le pétrole est beaucoup plus cher qu'avant, évidemment les énergies concurrentes, comme le nucléaire, qui étaient déjà compétitives, deviennent encore plus compétitives. Une deuxième raison, c'est la crainte pour la sécurité de nos approvisionnements. Le pétrole, malheureusement, on n'en a pas chez nous. On en avait un petit peu en Europe, en mer du Nord, mais ces gisements s'épuisent. Et il se trouve que les deux tiers des réserves sont au Moyen-Orient. Alors, sans faire de longs commentaires, chacun comprend les problèmes que ça pose pour la sécurité de notre approvisionnement. Le reste, d'ailleurs, se trouve, quand ce n'est pas au Moyen-Orient, en Russie. Et on a vu tout récemment, avec l'affaire des menaces de coupure des fournitures du gaz russe, que ça pose aussi quand même quelques problèmes pour la sécurité de nos approvisionnements. Donc il y a une conscience maintenant des inconvénients de la dépendance énergétique. Et d'ailleurs, le livre vert que vient de sortir l'Union européenne insiste beaucoup sur ce thème. En Europe, actuellement, on est déjà dépendant de l'extérieur à hauteur de la moitié. Ce sera plus de 60% dans quelques années. Ça pose évidemment un problème. Une troisième raison, c'est l'émergence de nouveaux très gros consommateurs aux gros appétits. La Chine, évidemment, mais aussi l'Inde, mais aussi tous les pays du Sud. La Chine, par exemple, devra tripler sa consommation énergétique d'ici 2025. Et si on réalise que la consommation d'énergie dans les pays du tiers-monde n'est encore que 1/12 de ce qu'elle est dans les pays de l'OCDE, on voit qu'ils ont beaucoup à rattraper et ça fait évidemment qu'il y a une concurrence croissante pour se procurer ces ressources qui par ailleurs deviennent de plus en plus rares parce qu'une autre préoccupation de sécurité que nous pouvons avoir, c'est que malgré tout, les gisements de pétrole et de gaz finissent par s'épuiser. Enfin, l'autre aspect, ce sont évidemment, et ça peut paraître paradoxal à certains, mais c'est tout à fait réel, les préoccupations écologiques. Pourquoi ? Parce que chacun se préoccupe aujourd'hui du réchauffement de la planète. On en voit d'ailleurs les conséquences, ce qu'on appelle l'effet de serre. Et le fameux protocole de Kyoto, qui essaye de limiter les émissions de gaz carbonique, de méthane et d'autres gaz à effet de serre, est impossible à tenir sans la pointe du nucléaire, et même sans renforcer fortement la part du nucléaire dans nos activités. Il n'y a d'ailleurs pas que le réchauffement planétaire, il y a tout simplement la pollution en général. Il est évident que les pluies acides, les marées noires, etc. sont des exemples de pollution qui sont dues à l'utilisation du charbon, du pétrole, des combustibles fossiles, comme on dit. Alors qu'il faut rappeler que le nucléaire est au contraire la source d'énergie qui est la moins polluante à tous égards, notamment elle a un effet de serre très très faible, moins fort que les énergies comme le charbon et le pétrole naturellement, mais même moins fort que les autres énergies renouvelables. Donc le choix du nucléaire paraît évident, pourtant il reste de fortes oppositions. Je crois pour trois raisons. Parce qu'on confond les problèmes civils et militaires. Le nucléaire civil et le nucléaire militaire, c'est évidemment deux problèmes différents. Il faut bien sûr éviter la prolifération. C'est un sujet en soi, mais enfin, il ne faut pas confondre la construction d'une usine électrique nucléaire et la construction d'une bombe. Ça n'a évidemment rien à voir. Un deuxième élément, je crois, c'est ce qu'on peut appeler la peur irrationnelle de la science. On dit que le nucléaire, c'est lourd, c'est technologique, c'est compliqué, c'est la société hyper-industrielle. Et puis, le troisième élément, me semble-t-il, c'est cette fameuse question des déchets. Je pense qu'on va pouvoir en débattre largement avec M. Boiteux, mais c'est certainement une des préoccupations qui explique qu'à la fois, on se dit aujourd'hui, le nucléaire, pourquoi pas, et en même temps, il reste beaucoup de craintes en travers du chemin.
Alors nous allons revenir sur les nombreux points que vous avez abordés, notamment Monsieur Boiteux, pour venir tout de suite sur le point qui est peut-être un des plus frappants dans l'exposé de Monsieur Jorgensen, c'est le fait que finalement le nucléaire répond à une préoccupation écologique, alors que justement le nucléaire est un des chevals de bataille des associations écologiques que l'on connaît. Est-ce qu'il n'y a pas, pour procéder par l'absurde, est-ce qu'il n'y a pas mieux que le nucléaire en fait?
Ça dépend de quel point de vue on se place. Sur le plan strictement écologique, il est vrai que les énergies dites nouvelles, qu'il s'agisse du vent ou du soleil, ont a priori des mérites encore plus grands. Mais on ne peut guère, dans l'état actuel des techniques et pour longtemps encore, y voir autre chose qu'une source d'appoint, parce que, d'abord, c'est extrêmement encombrant. Je me souviens, quand on discutait de la future centrale nucléaire de Bretagne, qu'on n'a jamais faite, ça équivalait à recouvrir toute la Bretagne d'un réseau d'éoliennes, tellement ça prend de surface. Le soleil aussi prend beaucoup de surface, et dans l'état actuel des choses, du fait en plus du côté aléatoire de leur production, parce que quand il n'y a pas de vent, ou quand il y a trop de vent, les éoliennes ne donnent rien. Et donc, tant qu'on ne saura pas stocker l'électricité, ce sera une énergie d'appoint. Et quand vous construisez des éoliennes, vous construisez autant d'autres centrales par ailleurs. Ça permet seulement d'économiser du pétrole aux heures de pointe et surtout de l'uranium au moment où les centrales nucléaires sont en route et qu'on fonctionne un peu moins.
Donc des avantages au point de vue coût aussi, j'imagine, par rapport aux éoliennes ou par rapport à l'hydroélectricité.
Parler du nucléaire?
Oui.
Ah ben le nucléaire est certainement actuellement, enfin, c'était l'énergie la meilleure marché. Malgré les provisions qu'on doit faire pour se préoccuper des déchets ultimes, alors que l'éolienne et le solaire sont encore des énergies chères, non pas tellement chères en elles-mêmes, mais parce que dans la mesure où une éolienne n'économise pas la centrale de même puissance, ça ne sert qu'à économiser du pétrole ou de l'uranium, et donc il faut que ce soit très bon marché pour que ce soit rentable de construire uniquement pour ça.
Il faut voir aussi que les éoliennes, puisque c'est surtout d'elles qu'on parle, l'énergie solaire, on est vraiment loin d'arriver à en faire quelque chose de rentable. Les éoliennes, ça fait beaucoup de bruit et c'est très laid dans le paysage. Or, il en faut des centaines et des centaines pour faire l'équivalent d'un réacteur civil nucléaire. On a d'ailleurs vu, quand on a commencé à essayer de construire des éoliennes, qu'il y avait aussi des associations écologiques qui se formaient pour protester contre le fait que la nature était gâchée par la construction d'éoliennes. Donc la solution de remplacement n'est pas vraiment là non plus.
Une centrale, comme la centrale de Paluel, que je prends souvent comme exemple, parce que comme exemple du fait que le nucléaire, ça prend pas de place. Quand je faisais visiter la centrale, on arrivait par l'intérieur, par les terres, on ne voyait rien. Puis à un moment, on montait au-dessus d'un petit monticule et on voyait sous ses pieds quatre wagons, comme des wagons de chemin de fer, qui sont les salles des machines, puis quatre tours, qui étaient la partie nucléaire de la centrale. Et j'en dis, vous avez sous vos yeux l'équivalent de toutes les houillères de la Reine, à une époque, elle marchait à plein. Toutes les houillères de la Reine, avec tous les trains qu'il faudrait pour transporter le chargement jusqu'à la centrale, ça rend une économie de surface, et donc, sur l'angle écologique, un avantage considérable.
Alors poursuivons sur cet angle écologique qui est comme, on va dire, la question la plus centrale, celle de ce qu'on fait des déchets nucléaires. Et là, de ce point de vue, le débat sur les bienfaits écologiques ou sur les désavantages écologiques est toujours présent. On ne maîtrise pas encore tout à fait l'avenir des déchets nucléaires et ce qu'il faut en faire.
On ne maîtrise pas tout à fait l'opinion qu'on en a. Mais à mon avis, il y a deux aspects dans ce problème des déchets. Il y a un problème en quelque sorte métaphysique. de quel droit finalement l'homme va-t-il chercher au cœur de la matière une énergie que l'homme n'a pas mis dans son berceau? C'est un peu le complexe de
Prométhée.
C'est prométhéen. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu immoral ensuite dans ce déchet qu'on va laisser indéfiniment dans la terre? Moi, ma réponse, c'est que le bon Dieu a fait bien pire.
Mais c'est alors, tout à fait ça, Prométhée a été puni pour avoir dérobé le feu et l'homme a dérobé le feu nucléaire.
Alors, je précise ce propos un peu agressif. Il faut penser qu'à l'origine, la Terre est une énorme boule de gaz extrêmement radioactif, très très radioactif. Puis peu à peu, la radioactivité, peu à peu, ça a pris en masse, la radioactivité a diminué. Elle continue à diminuer d'année en année, et le total des déchets nucléaires produits par l'énergie civile, depuis qu'elle existe, représente un mois et demi de décroissance naturelle de la radioactivité du globe. Vous voyez les ordres de grandeur. Et par conséquent, quand on pense que le bon Dieu a une désinvolture incroyable, nous a laissé tout ça dans notre globe terrestre, énorme réactivité, que ce qu'on fait, nous pauvres humains, c'est un mois et demi, depuis ce qu'on a éventuellement, c'est très peu de choses, on se rend bien compte qu'il y a un problème d'ordre de grandeur. C'est pas grand-chose, ces déchets nucléaires. Faut ajouter que tout le monde parle des déchets nucléaires de l'électricité. Il faut savoir quand même que pour les déchets à vie longue, ceux qui posent des problèmes, les vrais, l'énergie nucléaire n'est capable que 40%. Le reste, c'est des déchets d'autres origines, industrielles ou médicaux. Donc, sur le plan métaphysique, le bon Dieu a fait bien pire. Il reste à faire aussi bien que lui. Et c'est le deuxième problème.
Oui, dans le détail.
Le problème technique. Voilà. Comment faire aussi bien que lui? On peut se poser des questions en se disant, dans l'industrie, quand on fait quelque chose, on expérimente avant de le faire. Et là, comment expérimenter un enfouissement qui est fait pour durer des siècles, peut-être même des millions d'années? Comment faire?
Éviter des fissures.
Alors, la seule expérience qu'on a, c'est l'expérience géologique. Et moi, il y avait un argument qui m'avait frappé à une époque où je me préoccupais de la question, parce que je dois vous dire, enfin, c'est pas un secret, mais quand j'étais nommé directeur général d'EDF, c'est vieux, ça date de 1976, j'étais plutôt anti-nucléaire. Il a donc fallu me convaincre. Et alors, l'argument qui m'avait intéressé pour le plan des déchets, c'était l'idée qu'on développait à l'époque, en Allemagne, de mettre les déchets nucléaires dans des mines de sel. Alors, pourquoi des mines de sel? Parce que le problème des déchets, ce qu'on risque avec les déchets nucléaires, c'est que les venues d'eau progressivement, à force de lécher l'espèce de bloc vitrifié dans lequel on les a mis, à force de lécher indéfiniment, ça finira au bout de milliers et milliers d'années peut-être d'entraîner un peu de radioactivité. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Eh bien, la mine de sel, on est sûr que depuis des millions d'années, il n'y a pas de sel, parce qu'il n'y a pas d'eau, s'il y avait de l'eau, il n'y aurait pas de sel. Donc, on a l'expérience géologique, on sait que depuis des millions d'années, il n'y a pas eu d'eau dans ce coin-là. Voilà une expérience. Autre expérience de nature géologique, on sait analyser les mouvements des sols en voyant les strates. On sait les endroits où ça peut bouger, les endroits où ça bouge. Et donc, on a quand même une expérience géologique avant de décider de mettre dans le sol, plus ou moins définitivement, ces fameux déchets nucléaires donc, pour lesquels nous mimons modestement le créateur.
Il faut voir que bon, il y a plusieurs solutions pour le stockage des déchets nucléaires. D'abord, ça n'est pas une masse énorme par rapport au total de déchets qu'un pays comme la France fabrique chaque année. C'est évidemment tout petit, les déchets nucléaires. Surtout que parmi ces déchets, le président Boiteux y faisait allusion, il y a des déchets dangereux à vie longue et puis des déchets qui s'éliminent naturellement très rapidement. Alors on les classe en A, B, C, mais bon, c'est les déchets C qui sont vraiment dangereux. Il y a plusieurs manières de les traiter. En gros, il y en a trois. Et la fameuse loi Bataille, qui a été votée il y a une quinzaine d'années maintenant, justement, a donné le temps pour qu'on réfléchisse, qu'on compare ces différentes solutions. Les trois solutions, c'est la transmutation, c'est-à-dire repasser ces déchets dans des centrales nucléaires pour les désactiver. La deuxième solution, c'est le stockage en surface. Et la troisième solution, donc, c'est l'enfouissement dans des couches profondes, mais après des années de tests. Alors, on a choisi un site en France qui est le site de Bure, dans la Meuse, dans laquelle, comme on vient de le dire, effectivement, il s'agit d'enfouir très loin de la surface, dans des couches complètement neutres, des couches argileuses très épaisses. Comme vous savez, l'argile est ennemie de l'eau, est stable. Et donc, personnellement, je trouve que c'est de loin la meilleure solution. Les écologistes ont tendance à y préférer le stockage en surface, qui est un peu la politique de Gribouille, parce qu'ils se disent qu'en attendant d'avoir trouvé une meilleure solution, on va les laisser à portée de tout le monde, au lieu de les enfouir sous la terre, où ils seraient quand même, à mon avis, moins exposés. Et alors, leur argument, c'est de dire si on les enfouit, on aura du mal à les ressortir, et au fil de milliers et de milliers d'années, il peut y avoir des infiltrations. Je crois que dans quelques milliers d'années, on aura probablement trouvé d'autres techniques, et en tout cas, il y a des dangers infiniment plus pressants que ceux des infiltrations dans les fûts de déchets nucléaires à 500 mètres sous terre. Quand on regarde la rapidité avec laquelle la biodiversité, par exemple, s'élimine de la planète, la rapidité avec laquelle le réchauffement planétaire nous menace, il y aura par exemple, si on ne fait rien, des pays entiers qui vont être noyés par les eaux avant 2100, pas avant quelques millions d'années. Donc on n'est pas du tout à la même échelle de temps, de toute façon.
Autre sujet qui fâche dans le même domaine, celui des transports des déchets, est-ce que là aussi on est arrivé à un compromis qui soit acceptable, Monsieur Boiteux ?
Mais c'est pas une question de compromis, on a une solution parfaitement acceptable. On les transporte dans des conteneurs spéciaux qui sont capables de résister contre les jets du sixième étage, qui sont capables de résister à un accident de chemin de fer, donc qui sont parfaitement sûrs et protégés. Il y a quelque temps, il y a eu une petite alerte parce qu'on avait réussi à trouver quelque part un endroit où le conteneur à l'extérieur avait un taux de radioactivité supérieur à la norme. Vous savez que les normes, c'est 10 fois moins que le danger. De toute façon, il n'y a pas de danger, monsieur. Et finalement, quand on regarde ce que c'est l'ordre de grandeur, c'est l'ordre de grandeur radioactif du corps humain. Parce que vous êtes irradiante et vous m'irradiez. Alors que moi, je suis un ange, je dois faire environ 10 000, j'ai fait 10 000 becquerels, vous en faites 8 000. Et on s'irradie mutuellement. Et l'ordre de grandeur de radioactivité qui était en cause, c'est l'ordre de celle du corps. Donc pas grand-chose. Il y a une question d'ordre de grandeur. Vous savez, autrefois, on raisonnait en curie. Et on vous dit, oh là, il y a un millionième de curie. J'étais pas inquiet, un millionième, c'est pas bien grave. Un millionième de curie, c'est 43 000 becquerels. Parce que la nouvelle unité, le becquerel, c'est, la curie, c'est 43 milliards de becquerels. On est passé d'une unité d'origine à une unité 43 milliards de fois plus petite. Alors quand on parle de 1000 becquerels, vous savez, 1000 becquerels, c'est nous. Donc il n'y a pas de quoi en faire un drame. Et pourtant, vous avez des articles de journaux où on dit on a découvert 1000 becquerels dans la mousse, dans je ne sais quelle forêt du Midi. 1000 becquerels, c'est nous.
Il y a beaucoup de sujets qui fâchent quand même sur le nucléaire, comme Philippe Jürgensen le rappelait en introduction. Pour les égrener en totalité, il y a un des risques, des explosions ou des fissures dans les centrales elles-mêmes, sans évidemment parler des accidents qu'il y a eu à Tchernobyl il y a maintenant 20 ans, ou près de Washington, hein, aux États-Unis, Three Mile Island, à la fin des années 70. Est-ce qu'on est maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on est à l'abri? Quel est l'ordre de grandeur de risque?
Effectivement, il faut raisonner un ordre de grandeur, parce que si vous demandez à un scientifique que je suis, si on peut affirmer qu'il n'y aura jamais d'accident, on n'a pas le droit de dire ça. La question est si c'est probable. Alors moi, on m'a rassuré le jour où on m'a dit, vous savez, le risque que vous avez de mourir d'une action nucléaire est plus faible que celui que vous avez de mourir en recevant une météorite. C'est un risque qui paraît tellement rare qu'on ne se protège pas. Si on craignait ce risque, on circulerait uniquement dans les souterrains.
Oui, on ne sortirait qu'en casque
donc,
lourd.
Donc, ce genre de risque, l'humanité, au contraire, est totalement négligeable. On accepte de ne pas survivre dans les souterrains. Donc, je pense que, ayant fait la réponse scientifique, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun risque. On peut dire qu'en pratique, le risque est extrêmement faible et donc pratiquement négligeable, à condition qu'on fasse ce qu'il faut. Ça implique qu'on est dans la conception d'une part et dans l'exploitation d'autre part, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture de sûreté. Cette culture que les Russes n'avaient pas à Tchernobyl, très évident, et que nous avons développée partout. Mais à partir du moment où on a cette culture, on peut avoir des incidents, mais l'accident grave auquel tout le monde songe, style Tchernobyl, à mon avis, sa probabilité est infime. Enfin, c'est pratiquement exclu. Pour autant qu'on fasse une gestion convenable. Alors, vous savez, à propos de Tchernobyl, on a dit, mais c'est pas un accident nucléaire, c'est un accident soviétique. C'est lié aux mœurs qu'avaient les équipes qui étaient sur place, qui ont fait accumuler un nombre d'erreurs extravagantes pour un occidental. On se demande comment on a pu livrer une centrale à des gens qui ont fait de pareilles imprudences. Et l'autre accident, lieu occidental, c'est celui de Three Mile Island, qui n'a tué personne.
Oui, qui a causé de grandes peurs, mais qui n'a pas eu...
Ça ruine l'entreprise. Et il y a un accident de voiture, des gens qui se sont enfouis, et il y a une dame qui a rencontré un arbre. Mais c'est une conséquence, certes, mais enfin, c'est pas un accident nucléaire.
Sans peut-être trop entrer dans la technique, il faut peut-être expliquer que ce sont deux types d'accidents très différents, puisque ce qu'on craignait à Three Mile Island, c'est la fusion du cœur. On avait fait des descriptions apocalyptiques comme quoi le cœur de la centrale allait s'enfoncer petit à petit dans les entrailles de la Terre. Et puis l'autre accident, celui de Tchernobyl, c'est au contraire des fuites vers l'extérieur parce que les caissons ne sont pas étanches. Oui, c'est des types d'accidents très différents. Mais évidemment, il faut se prémunir contre les deux. En France, on a au fil des années perfectionné les systèmes de sécurité. D'abord, on a une agence indépendante qui évalue un par un chacun des incidents, fussent-ils minuscules, et qui les classe sur une échelle de gravité, qui prescrit des mesures, qui parfois a suspendu l'activité de réacteur le temps qu'on améliore encore les systèmes de sécurité. Donc ça, c'est un élément de protection qui est important. Et puis, de plus en plus, on introduit des doubles confinements, des doubles circuits de sécurité. Donc, on essaye d'en rajouter constamment. Peut-être, c'est le moment d'ailleurs de dire un mot des nouveaux types de centrales nucléaires, l'EPR en France, qui sont beaucoup plus sûrs encore que les précédents.
Monsieur Boiteux.
L'obsession, c'est effectivement la fusion du cœur. Quand la centrale continue à fonctionner ou s'emballe comme à Tchernobyl, alors qu'on ne peut pas évacuer l'énergie, s'accumule, le cœur risque de fondre. Ça s'est passé aussi à Saint-Marie-la-Lande, il y a eu une petite fusion du cœur, mais dans une enceinte fermée, alors qu'à Tchernobyl, il y avait des enceintes, ou du moins les enceintes n'étaient pas des enceintes hermétiques, et donc ça a largement fui tout autour. Alors est-ce que le nouveau réacteur, bien sûr il est un peu plus sûr que les anciens, mais pas tellement plus en fait. Le problème, c'est plutôt d'éviter les incidents moyens, incidents majeurs. Bon, on est couvert avec le nouveau réacteur contre la fusion du cœur. C'est prévu avec une cuve pour le recevoir.
Avec le nouveau type de...
Avec l'EPR.
EPR, oui. Qui est en cours de débat.
Ce qui, pour un spécialiste, n'est pas une très grosse différence. Parce que il débrouille tout seul le cœur pour faire sa paroi. Mais c'est vrai qu'avec les connaissances, on a amélioré. Déjà, Saint-Marie-la-Lande reprend un avantage considérable. Un élément très important pour améliorer la centrale, on s'est rendu compte que quand il y avait un incident, la personne qui gère la centrale, l'exploitant, elle fallait, ça s'allume partout. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Et il a fait une erreur diagnostique. Si j'ose prendre une image, vous savez, quand on a une attaque cérébrale, il y a deux cas possibles. Ou bien c'est parce qu'il y a une artère qui est bouchée et il faut fluidifier le plus vite possible. Ou bien c'est parce qu'il y a un trou, il faut au contraire...
Colmater.
Il faut rendre le sang plus épais. Si on se trompe, c'est la catastrophe. C'est l'un ou l'autre. Or, l'exploitant de Saint-Marie-la-Lande s'est trompé le diagnostic. Je ne sais plus quel était. Ou bien il a cru qu'il n'y avait plus d'eau, qu'il y en avait trop. Ou bien il a cru qu'il y avait trop. Bon, il s'est trompé. Voilà, maintenant, ce n'est plus possible, ça. Parce que aussitôt après, on a revu toute la question des contacts entre la machine et l'homme. On a conçu un système dans lequel, pendant les 20 premières minutes au moins, tout est automatique, toutes les réglages sont automatiques. On a le temps de réfléchir, de faire des simulations pour voir, comprendre ce qui se passe, c'est déjà considérable. Et ensuite, les informations sont hiérarchisées, on n'a pas tout à la fois. Ça vient par zone, puis par sous-zone, et ça change complètement le métier d'exploitant nucléaire. Donc, on a fait de grands progrès.
Alors, nous allons reparler de ces risques un peu ultérieurement, lorsqu'on parlera de l'exportation des connaissances et de la technologie nucléaire à l'étranger, dans des pays en développement. Et tout de suite, on va parler de la politique française, je vous propose, mais tout de suite, on va marquer une petite pause.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Nous sommes donc en compagnie de Marcel Boiteux et Philippe Jürgensen pour évoquer la politique nucléaire en France et dans le monde. On l'a vu lors de votre introduction, Monsieur Jürgensen, que la politique nucléaire en France, du moins, connaît un certain regain d'intérêt. C'est aussi le cas dans différents pays. On voit que les États-Unis, que George Bush lui-même a, ses dernières allocutions, a donné une préférence pour le nucléaire, que la dernière réunion du G8, des 8 pays les plus développés à Moscou, ont également mis l'accent sur le nucléaire. Est-ce que c'est une question de diversification? Tout d'un coup, on réalise que le nucléaire n'est pas si mal que ça?
Moi, je crois qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'on risque de manquer d'énergie si on ne relance pas les programmes nucléaires, parce que même si on développe plus encore qu'on ne le fait, malgré le coût que ça représente, les énergies dites nouvelles, même si on fait des efforts accrus d'économie d'énergie, on peut encore en faire, c'est certain, on ne peut pas boucler si on ne relance pas le nucléaire. Donc il y a une question de purement quantitative que certains contestent, mais on peut contester aussi. Nous pourrions manger 3 fois moins et on se porterait très bien. Mais comment faire pour obliger les gens à manger 3 fois moins? Il faut mettre un policier derrière chaque homme. Et donc, si on veut arriver à donner l'économie d'énergie considérable, il faut une dictature. Et étroite en plus.
Bon, donc,
voilà un chapitre. Il ne faut pas du tout les négliger, je ne dis pas ça, mais enfin, il ne faut pas compter là-dessus pour passer. Donc, il y a un problème quantitatif.
Si je peux ajouter un point sur ce problème quantitatif, il faut bien voir que notre consommation d'énergie dans le monde actuellement augmente de 3% par an, avec des efforts gigantesque. On pourrait peut-être ramener ce 3% à 2% ou 1%. Il ne faut pas oublier que ce 3%, c'est une moyenne entre nos pays qui ont déjà bien développé leur énergie et des pays pauvres, où il y a encore 1,5 milliard d'habitants dans le monde qui n'ont même pas l'électricité chez eux. On ne va pas leur interdire de l'avoir un jour. Donc, dans ces pays pauvres, nécessairement, la consommation d'énergie va augmenter plus vite que chez nous. Donc, pour tenir une réduction sur la moyenne de l'ensemble du monde, il faut déjà des efforts considérables. Or, qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie ? Ça n'est pas l'industrie, contrairement à ce qu'on croit, parce que l'industrie a fait beaucoup d'efforts d'économie d'énergie, dans la mesure où c'est rentable d'ailleurs, d'économiser de l'énergie. Ce sont les transports, nos chères voitures. Alors, les gouvernements essayent parfois d'inciter leurs citoyens à moins utiliser leurs voitures. C'est quand même pas très populaire. Difficile de se faire élire démocratiquement sur des programmes comme ça. Et les logements. Il y a eu une époque, au moment du premier choc pétrolier, où le gouvernement avait essayé d'imposer qu'il fasse frais dans les logements. Pas froid, mais enfin qu'on ne dépasse pas 18 degrés. Parlez à votre famille, à vos voisins, d'avoir 18 degrés chez eux, ils ne seront pas très contents. Donc c'est joli de dire qu'on va faire des économies d'énergie, mais quand on regarde concrètement, on peut peut-être progresser moins vite, mais croire qu'on va arrêter complètement la progression de la consommation énergétique, c'est tout simplement de l'utopie.
Ce point pose évidemment la question du développement énergétique des pays comme l'Inde ou la Chine. On voit qu'une entreprise comme Areva tente de se placer en Chine et en concurrence avec les États-Unis. On voit que la France et les États-Unis sont également en concurrence en Inde sur cette question. Est-ce qu'on peut exporter une technologie qui est aussi difficile, aussi subtile, et finalement que l'on associe aussi beaucoup au nucléaire? On le voit en Iran, où l'Iran prétend ne vouloir développer que du nucléaire civil, et puis on le soupçonne de vouloir aussi développer de l'énergie militaire. Alors comment faire pour séparer les deux choses et que l'exportation soit une exportation qui soit sûre?
Bon, la Chine représente un besoin de développement d'énergie considérable, et elle ne peut pas y faire face sans faire un bon programme nucléaire, sans parler du fait qu'elle consomme quand même beaucoup de charbon et de pétrole, et donc elle va empoisonner l'atmosphère. Mais la Chine, il y a déjà longtemps qu'ils sont dans le nucléaire, puisque les premières centrales, ils ont fait avec nous. En fait, c'est EDF et Framatome qui a lancé les premières centrales en Chine, à Dayabé, et ça a été non seulement une construction, mais en même temps, une formation du personnel. Et on a fait en sorte que les exploitants chinois soient de même qualité que les nôtres. Vous voyez que la Chine, c'est immense, il y a de tout. On y trouve aussi bien de grands savants que des paysans encore illettrés. Les équipes qui se sont occupées de nucléaire sont des équipes de grande qualité. Ils s'en sont aperçus d'ailleurs que c'était plus difficile qu'ils ne le croyaient, parce qu'on a eu quelques incidents quand on construisait. Pour simplifier le coulage du béton, ils avaient enlevé quelques armatures, ceux qui faisaient le génie civil. Ils se sont rendus compte qu'on aurait tout cassé pour le refaire, que c'était vraiment très important. Donc les Chinois, je n'ai pas d'inquiétude, les Chinois sont parfaitement capables de mener convenablement un programme nucléaire, de mener de façon sûre. Les Indiens aussi, c'est un continent. Vous avez aux Indes des gens extrêmement compétents, et autant que je sache, leurs spécialistes de nucléaire sont des gens qui sont de très bon niveau. On ne se rend pas bien compte dans nos pays relativement homogènes ce que c'est qu'un continent comme l'Inde ou comme la Chine, où côtoie à la fois dans un état actuel de niveau parisien et une base qui est au minimum de niveau maghreb, si ce n'est même africain. Enfin, et donc, on ne peut pas juger sur une sorte de niveau moyen. Si on faisait une moyenne entre les Français et l'Africain, j'ai rien contre eux. Enfin, au niveau de développement, ils sont moins développés que nous. Enfin, une moyenne, je ne confierais pas du nucléaire à une moyenne franco-africaine. Ni chinoise, ni indienne, mais quand on prend les élites de ces pays-là, il y a tout ce qu'il faut pour mener convenablement des programmes nucléaires.
Ce que dit M. Boiteux, oui, est tout à fait fondamental. Ce sont en fait des économies duales, c'est très très clair, en Inde comme en Chine. N'oublions pas que près de la moitié de l'humanité est indienne ou chinoise. Donc quand on a traité le problème de ces deux pays-là, on a déjà traité une grande partie du problème. Effectivement, ils ont des savants qui sont au plus haut niveau mondial, depuis longtemps d'ailleurs. Un des pères de la physique nucléaire était un savant indien. Et les savants chinois, naturellement, sont au même niveau aussi. Donc ils ont effectivement, et pas seulement quelques individus, des centaines de milliers d'ingénieurs de haut niveau, tout à fait au niveau des nôtres, ce qui n'empêche pas qu'ils ont aussi des gens très misérables. Ce sont vraiment des économies duales. Donc il y a l'élite parfaitement capable d'assurer le fonctionnement et la sécurité de centrales nucléaires.
L'autre problème que vous posez, c'est la prolifération.
Le problème de lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, qui n'est pas seulement...
Alors, première image...
Question politique, en fait.
Première image, on ne va pas interdire à la chimie et à la pharmacie parce qu'il y a des armes chimiques. Alors les rapports entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, c'est un peu la même chose qu'entre la pharmacie et la chimie éventuellement militaire.
Il y a des liens tout de même.
Oui, ben, des liens, c'est ce qu'on apprend à la Sorbonne, quoi. C'est la formation commune au départ. Mais ensuite, quand on va vers les centrales nucléaires, on apprend à faire des réacteurs, on apprend des résistances de matériaux, on apprend à réguler. Au contraire, quand on fait des armes, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est des disciplines industrielles totalement différentes. Des ingénieurs très compétents de centrales nucléaires sont incapables de construire une arme, et réciproquement.
Mais expliquez-nous, est-ce qu'il n'y a pas des liens de matière? Est-ce que le nucléaire civil ne sert pas aussi à faire du nucléaire militaire?
Le problème n'est pas intellectuel, il peut être matériel. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, une des raisons pour lesquelles il y a eu une grande opposition en France à l'usine de La Hague, au retraitement des déchets, alors que dans d'autres pays, on ne les retraite pas, on les met directement en terre. Et là, on se rend bien compte qu'il y a un problème. C'est d'ailleurs paradoxal de penser qu'alors qu'on demande à tous les Français et les occidentaux de trier leurs déchets, de mettre de côté pour avoir de côté ce qui est totalement sans danger pour faire des remblais, ce qui est réutilisable pour récupérer, est-ce qui est dangereux pour le traiter à part, on fait ça pour le nucléaire et là, on est très mal vu. Parce que dans le nucléaire, on trie effectivement ce qui ne pose aucun danger, ce qui peut être réutilisé, l'uranium et le plutonium, et puis ce qui pose vraiment danger, qui prend à peine 1% du total. La raison, c'est qu'on dit, vous faites du plutonium, donc ça facilite la production des bombes. Et effectivement, dans les débuts de l'ère nucléaire, le plutonium, c'était l'image, le symbole même de la bombe. Mais peu à peu, les choses ont évolué. De nos jours, on peut aussi bien faire une bombe avec du plutonium, avec l'uranium très enrichi. Vous savez que l'uranium naturel doit faire 1,7% d'uranium utilisable. On le renchit à 3,5% pour les centrales nucléaires. Il faut l'enrichir à 92-95% pour faire des bombes. Quand on enrichissait l'uranium avec l'usine de séparation gazeuse genre de la grande usine de Pierre-Latte, c'est le coût exponentiel avec le pourcentage. Donc 12-13, au-delà, c'est pas possible. Malheureusement, il y a une autre technique, l'ultracentrifugation, qui elle est linéaire. C'est-à-dire que ça coûte pas plus cher. Et avec l'ultracentrifugation, n'importe qui peut avoir une centrifugation dans son grenier. Et donc maintenant, le problème de prolifération, c'est éventuellement le fait qu'on peut tourner toute la comptabilité du plutonium, qui est très importante, on peut la tourner en faisant chez soi facilement, c'est une image dans son grenier bien sûr, facilement du plutonium très enrichi pour faire des bombes. Et heureusement, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas ma spécialité, heureusement, ce qui est vraiment difficile et dangereux à l'armement nucléaire, c'est pas tellement la matière première, c'est le problème des têtes multiples et la commande du système. C'est la technique même de l'arme qui est très difficile et qui elle pourrait proliférer. C'est moins la matière première. Imaginez qu'un jour on ait décidé de réguler le développement des fusils en comptabilisant le plomb. On n'irait pas très loin. Maintenant, c'est ça, le plutonium n'est plus le moyen indispensable de faire des armes. On peut aussi bien faire l'uranium enrichi, très enrichi, dans une centrifugation. Et donc, à mon avis, on a quand même raison de faire attention à comptabiliser le plutonium, éviter qu'il se disperse, mais ce n'est pas là l'élément majeur.
C'est comme tout l'objet des débats, par exemple, en Iran.
Oui, tout à fait. Moi, je pense pour ma part que le problème de la prolifération est un problème très sérieux et grave. Il n'est pas question de le nier ou de le minimiser. C'est un des problèmes majeurs devant lesquels nous sommes actuellement. Il faut bien voir que probablement la solution, dans les deux cas principaux devant lesquels nous sommes actuellement, l'Iran et la Corée du Nord, la solution est justement dans le fait d'accepter que ces pays aient des activités nucléaires civiles contrôlées, avec notamment la fourniture d'énergie en partie par l'étranger et le retraitement de leur combustible à l'étranger. Enfin, le projet d'accord qui avait été esquissé entre la Russie et l'Iran était exactement de ce type-là. C'est probablement la porte de sortie pour éviter que ces pays se dotent d'armes nucléaires, ce qui serait évidemment extrêmement dangereux. C'est un grave danger. Mais comme l'a dit M. Boiteux, il y a en fait deux techniques différentes pour avoir l'arme nucléaire, la bombe au plutonium ou la bombe à uranium enrichi. Le plutonium, on peut, hélas, depuis la dissolution de l'Empire soviétique, enfin, il y a en tout cas des risques qu'on puisse en trouver au marché noir pour s'en procurer sur les décombres de l'Empire soviétique où il y avait du plutonium un peu partout. Il n'y a pas besoin pour ça de faire des centrales nucléaires civiles, il y a un accès plus direct. Et l'enrichissement de l'uranium, on peut le faire sinon dans son grenier, tout au moins en mettant bout à bout des centaines de centrifugeuses, des milliers qui peuvent être dispersées. Donc c'est très très difficile à contrôler, c'est tout à fait vrai. Mais je ne pense pas que la réponse soit de dire qu'on interdit aux pays du Sud d'avoir de l'énergie nucléaire, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, leurs besoins sont tels qu'ils en ont absolue nécessité. Il faut arriver à contrôler cet usage du nucléaire civil et à empêcher complètement le passage du nucléaire civil vers le militaire par des accords internationaux, des mécanismes de contrôle comme ceux de l'AIEA, etc.
Mais le fait que le nucléaire devienne de plus en plus un enjeu mondial et même de diplomatie, le fait que certains pays soient en concurrence pour vendre une certaine technologie, fait que peut-être certains éléments de sécurité ou certains savoirs peuvent être un peu bradés, ou est-ce qu'il n'y a pas un danger, le fait que ça soit une technologie de plus en plus vendue?
Il y a un danger certain, mais le danger est plus du côté des missiles et des têtes multiples, donc des armes de haute technologie, que du côté des matières premières, dont je répète qu'il faut quand même les contrôler, parce que c'est plus facile. Mais ce n'est pas tout à fait sûr, à cause des possibilités de s'échapper à la centrifugation. Et donc, il faut en même temps avoir un certain contrôle de ces armes ultra sophistiquées, dont on maîtrise quand même assez mal la technique. Je me souviens, lors de la première bombe indienne, mon interlocuteur du commissariat, il m'a dit « c'est pas grave, parce que... » Ils n'ont pas d'armement qui va avec. Le temps qu'ils la sortent avec un ballon dirigeable au-dessus de New Delhi, on l'aura détruite. Tu l'image, là aussi, bien sûr. Mais on ne peut pas avoir un armement nucléaire efficace si on n'a pas une maîtrise de la très haute technologie des armes nucléaires. Ce qui rassure un peu par rapport au fait qu'on peut moins bien qu'autrefois contrôler les matières premières, genre plutonium ou uranium enrichi.
Dans le même ordre d'idées qui est de l'ouverture des connaissances du nucléaire et évidemment sous-jacente les liens entre civils et militaires. Par exemple, l'ouverture, revenant en France, l'ouverture du capital d'EDF a quand même suscité énormément de peur sur le fait que l'État n'aurait plus la mainmise sur sa politique nucléaire. Est-ce qu'il y a de réels dangers, par exemple? Vous qui avez été à la tête d'EDF, comment vous voyez ça?
Sous l'angle nucléaire, moi je pense pour ma part qu'il est quand même préférable que l'État reste majoritaire dans EDF, parce que on est quand même rassuré sur le fait que si un jour la maison a de graves problèmes financiers, elle ne va pas faire des économies sur la sûreté. Comme en matière de sûreté, en fait, on va très loin. Les théoriciens vont dire on va trop loin, en fait. Je me souviens, il y a eu une discussion avec les organes de sûreté un jour, parce qu'on voulait nous faire ajouter un dispositif. Il fallait qu'on démontre que ça crée plus de risques que si on en guérissait, pour qu'on obtienne de ne pas le faire. Donc, on va très très loin dans l'organe de sécurité. Donc, je crois qu'il est quand même préférable que l'État ait son mot à dire pour imposer des règles de sécurité, enfin, pour s'assurer que les règles de sécurité survivront à des difficultés financières. Cela dit, en Belgique, ils ont aussi du nucléaire.
Il est privé.
Il est privé, et ça marche quand même. Ouais. Donc, c'est plus une précaution qu'une nécessité absolue.
Monsieur Jorgensen, est-ce qu'il n'y a pas dans les nouvelles règles les jeux de concurrence en Europe aussi, on voit que la politique énergétique est quand même sur le devant de la scène en ce moment. Est-ce que EDF peut rester public? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable à long terme?
Le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement réunis, vient de sortir un document assez long, assez complet sur la politique énergétique, dans lequel effectivement le nucléaire est remis en partie à l'honneur. Ils insistent aussi sur les énergies renouvelables, sur les économies d'énergie, enfin, il y a un peu une panoplie complète de tout ce qu'on doit faire dans le domaine énergétique. Et c'est vrai que les conclusions de ce Conseil mettent constamment en premier rang la concurrence. Cela dit, il n'a jamais été dit, dans l'ensemble de la politique de la concurrence en Europe d'ailleurs, qu'il ne pouvait pas y avoir propriété publique des entreprises, du moment qu'elles sont dans la concurrence, qu'elles sont ouvertes à la concurrence. C'est-à-dire, ça veut dire que d'autres opérateurs électriques pourront vendre leur électricité en France, de même que EDF peut vendre son électricité à l'étranger. Ça, oui, c'est une obligation qui va être de plus en plus forte. Donc les entreprises publiques de monopole qui ont l'exclusivité sur leur marché, ça n'est plus à l'ordre du jour. Mais par contre, qu'il existe encore des entreprises publiques, c'est tout à fait possible, à elles d'être les meilleures dans la compétition internationale. Et nous en avons quand même quelques-unes, dont EDF, il faut le dire, qui sont vraiment au meilleur niveau mondial dans la compétition internationale. Ce qui empêche EDF d'exporter encore plus son électricité sont tout simplement des limites physiques. L'électricité ne se transporte pas facilement sur de longues distances et ne se stocke pas facilement non plus. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi il faut construire aussi des centrales dans les pays du Sud. On pourrait se dire, mais il n'y a qu'à fabriquer de l'électricité en France et ensuite la transporter en Chine. Ça, malheureusement, ça n'est physiquement pas réalisable. En l'état actuel des connaissances, on fera peut-être des progrès avec les semi-conducteurs, mais enfin, ça prendra du temps.
Monsieur Boiteux, quand vous dites que vous souhaiteriez, vous, que EDF reste aux mains de l'État, est-ce que vous pensez que le jeu de la concurrence n'est pas néfaste pour une question comme le nucléaire ? Au point de vue sécurité, notamment.
Néfaste, c'est beaucoup dire, mais ça implique que les autorités de sûreté de l'État soient beaucoup plus curieuses et insistantes qu'ils ne le sont avec une entreprise publique en qui ils ont confiance. Donc ça oblige effectivement à développer très considérablement la surveillance des entreprises. Cela dit, moi j'ai toujours dit qu'on n'aurait jamais dû privatiser l'électricité parce que c'était un cas tout à fait particulier. J'avais annoncé que les prix augmenteraient, c'est fait, les prix augmentent. Parce que c'est beaucoup plus difficile à gérer quand on opère par la voie commerciale que par la voie hiérarchique, dans un secteur où on ne peut pas stocker. Et donc, peut-être en tout cas on s'arrêtera à 51%, peut-être qu'on continuera au-delà. Le pli est pris maintenant. Ce n'est pas une évolution évidente en tout cas. Parce que malheureusement, c'est traité par des juristes où on a traité les services publics tous pareils. Alors, tous les services publics sont pareils. Alors, ils sont très différents techniquement. Ou bien on traite l'énergie. Et on traite l'énergie pareillement.
GDF et EDF.
Alors que chacun, c'est vraiment spécifique, que dans l'ensemble des services publics, on trouve un bout ce qu'était autrefois Air France. Air France était un monopole naturel il y a 50 ans parce que du temps de Mermoz, quand il y avait un avion qui allait de Paris à Marseille, on ne va pas mettre deux à moitié vides. Donc il y a un monopole par indivisibilité. Il y avait 100 avions qui allaient chaque jour de Paris à Nice. Il n'y a aucune raison de ne pas mettre la concurrence, là, c'est évident. Les gens ont été influencés par l'idée, la chose qu'ils connaissent le mieux en matière de réseau, c'est le réseau routier. Et personne n'a jamais eu l'idée de nationaliser les routes pour organiser la circulation automobile. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le nucléaire revient à la surface, c'est à la fois la peur de manquer, c'est aussi la conscience qu'on prend peu à peu du risque que représente le fameux effet de serre et réchauffement de la planète. Alors pendant un certain temps, c'était une éventualité. Maintenant, on est quasi sûr qu'effectivement, il y a un effet de serre et donc il y a de fortes chances que la température moyenne du globe augmente. Et on parle de variations que le globe a connues autrefois, mais ces variations qu'on connaît en 100 ans, on les a connues en millions d'années. Et donc, comment va-t-on subir en 100 ans ce qu'on a connu autrefois en un million d'années ? Là, il y a un problème. Et donc, on se rend bien compte qu'il faut s'efforcer, arrêter la chose, on ne peut pas, c'est trop tard, mais au moins freiner le réchauffement du globe, et donc freiner l'émission de gaz carbonique. Alors là, c'est très clair, il y a les énergies fossiles qui forcément, parce qu'il y a du carbone, font du gaz carbonique. C'est comme ça que ça fait de l'énergie.
Donc le pétrole, le charbon, le gaz.
Exactement. Oui. Et puis sinon...
Le plus polluant de tout, c'est le charbon, mais le pétrole n'est pas loin.
Oui, le pétrole en fait autant. Le gaz, un peu moins, parce que la chaleur, par exemple, à la fois, dans la combinaison du carbone à l'oxygène, qui fait CO2, et combinaison d'hydrogène à l'oxygène, qui fait de l'eau. Alors l'eau, c'est un produit moins polluant. Et donc, ce problème de l'émission de gaz carbonique amène à mettre l'accent sur le nucléaire, qui lui est quand même énorme. Il ne fait pas de gaz carbonique. Alors c'est frappant de penser que actuellement, je pense les pays de l'OCDE, je les prends globalement, ils sont relativement tous industrialisés, les pays de l'OCDE doivent émettre chaque année environ 12 milliards et demi de tonnes de gaz carbonique, c'est quand même pas mal, hein, 12 milliards et demi de tonnes, et que si on avait poursuivi le nucléaire qu'on a arrêté il y a 30 ans pratiquement, au rythme antérieur, de telle manière qu'aujourd'hui, dans un pays OCDE, il y a 50% d'électricité nucléaire et 50% non nucléaire, il y aurait 2 milliards et demi de tonnes de moins par an. Donc on se rend compte que le fait qu'on ait arrêté le nucléaire, sous la pression des écologistes d'ailleurs, conduit à un désastre écologique, et que les efforts d'énergie qu'on a fait depuis, qui sont méritoires et nécessaires, c'est pas grand-chose par rapport à l'économie que représente le nucléaire qu'on n'a pas fait. Alors on dit maintenant, mais vous savez, il va falloir en combien 20-25 ans avant que ça, C'est vrai qu'on m'a tout arrêté depuis 30 ans, il faudra 25 à 30 ans avant que ça soit vraiment sensible dans ses effets sur les... Mais ce n'est pas parce que c'est dans 30 ans qu'il ne faut pas le faire.
Et il faut voir que les écarts sont énormes. Hein. Si on mesure par kilowattheure d'électricité produite, par exemple, la quantité de gaz à effet de serre, de gaz carbonique, de méthane, etc., qui sont émis, on est dans des rapports de 1 à 40, de 1 à 50 entre le nucléaire, y compris... toute l'énergie qu'il faut pour construire une centrale nucléaire, donc y compris l'investissement au départ et la production par la suite, entre donc le nucléaire et le charbon ou le pétrole. Ce sont des écarts absolument gigantesques. Et ce que personne ne sait ou ne veut dire, en tout cas, c'est que même les énergies renouvelables comme l'énergie solaire ou l'énergie éolienne sont plus consommatrices de gaz à effet de serre que le nucléaire, parce que pour construire une éolienne, il faut faire tourner des machines qui elles-mêmes vont consommer de l'énergie qui va émettre des gaz à effet de serre. Donc le nucléaire est par exemple 5 fois moins polluant en termes d'effet de réchauffement que les éoliennes. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas mais qui sont assez frappantes.
En pollution consolidée, parce que quand on dit le nucléaire ne fait pas de gaz carbonique, c'est une fois qu'il est construit. Et quand on tient compte de ce qui consomme pour le construire, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué, qui est important. Je me souviens d'avoir vu un article qui m'avait beaucoup frappé, dans lequel on disait que l'énergie la plus dangereuse, c'était l'éolienne. Ah, je dis pourquoi ? Parce qu'il faut tenir compte de l'amont, et comme on sait combien de gens on tue par tonne de béton et par tonne de métal, statistiquement, enfin, par million de tonnes, l'éolienne, du fait de ses infrastructures, est plus dangereuse par kilowattheure produit que le nucléaire. Paradoxe.
Oui, ce sont des paradoxes
mais qui mettent en évidence des formes de raisonnement que l'on ne pense pas.
Oui. Messieurs, je vous remercie d'avoir passé cette heure à effectivement écarter certains clichés sur le nucléaire. Je rappelle à nos auditeurs que nous étions en compagnie de Marcel Boiteux et Philippe Jürgensen. Merci,
messieurs. Merci beaucoup de nous avoir invités.